Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Un hebdomadaire le jeudi, une télévision le dimanche et une radio mercredi. Après des mois de relatif silence médiatique depuis son départ de Matignon, Édouard Philippe est partout. Officiellement, il s'agit de promouvoir un livre coécrit avec son complice Gilles Boyer, intitulé « Impressions et lignes claires ». Mais avec la très bonne cote de popularité de l'intéressé, une présidentielle dans un an et une situation politique rendue incertaine par la pandémie de Covid-19, ses réflexions sur le pouvoir interrogent le milieu politico-médiatique, la Macronie et la droite sur les intentions de l'ancien Premier ministre. Le retour d'Édouard Philippe, pourquoi faire ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en ligne et en direct avec nous aujourd'hui. Bruno Cotterès, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur CNRS au CEVIPOF, qui est le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Et aussi Pauline Thévenio, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique au quotidien Le Parisien et vous avez publié chez Plon les livres Les Apprentis de l'Élysée et Le Kéké de la République, des livres coécrits avec Jérémy Marot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste politique à l'agence France Presse. On va d'abord faire un petit tour de table, même si on est à distance. Pandémie oblige. Vous êtes des observateurs très avisés de la vie politique. Vous n'avez pas manqué de lire l'entretien dans Le Point, un hebdomadaire plutôt classé au centre-droit. Ça a son importance. Vous avez regardé Édouard Philippe hier soir à la télévision. Vous en avez pensé quoi, Bruno Cotterès ?
J'ai trouvé Édouard Philippe hier à la télévision avec à la fois beaucoup de messages entre les lignes, parfois un peu de retenue, parfois presque mal à l'aise, comme s'il redoutait de prononcer le mot qu'il ne fallait pas prononcer ou la phrase qu'il ne fallait pas prononcer du type « oui, j'ai terriblement envie d'être candidat à l'élection présidentielle ». Mais effectivement, il y avait beaucoup de messages entre les lignes et j'ai trouvé qu'à plusieurs moments, Édouard Philippe a manifesté très clairement, il a posé des piques sur le terrain, il a manifesté très clairement que si Emmanuel Macron ne pouvait pas ou ne voulait pas y aller, bah lui se sentait prêt.
Pauline Thévenio, votre analyse, c'est la même ?
Oui, absolument. Et c'était ce qui était intéressant hier soir de le voir sur le plateau du 20h de France 2, c'était de voir la façon dont il entretient cette ambiguïté. C'est comme une stratégie un peu des portes ouvertes. Il n'en a fermé aucune. Hier soir, on a pu le voir à l'écran. Les questions sur ses intentions lui ont été posées à de multiples reprises, de multiples façons. Et à chaque fois, il a finalement esquivé ce qui produit comme effet de laisser, in fine, au lendemain de cette interview, la machine à spéculation s'enclencher et s'entretenir. Il était aussi... Certains macronistes l'ont lu comme une ligne de crête en disant voilà, il veille à rester loyal, mais en même temps à marquer sa singularité, à marquer qu'il est libre et qu'il n'est certainement pas dans une retraite politique, qu'il se voit un avenir. Et c'est vrai que je rejoins Bruno Cotterès sur ce point, c'est que parfois on l'a senti quand même un peu, il semblait... pas tout à fait à l'aise, un peu raide, un peu en dedans. Alors, est-ce que c'est qu'il a vu à ce moment-là que cette ligne de crête n'était pas forcément facile à tenir tout au long d'une interview télévisée, peut-être.
Oui, Jérémy Marot, c'est peut-être fait exprès d'ailleurs de vouloir déclencher les spéculations d'un petit peu tout le monde. C'est une volonté, ça, de la part d'Édouard Philippe.
Édouard Philippe, c'est quelqu'un qui aime, comme on nous l'a souvent dit, qu'il n'aime pas se fermer les portes. Il a raison, d'une certaine manière, il se garde toutes ses options ouvertes. Pendant tout un moment, il avait traîné la rumeur comme quoi il aurait pu se présenter à la mairie de Paris. Et rappelez-vous, il n'avait jamais vraiment fermé cette porte-là, et bien évidemment, c'était faux, il n'en avait pas tout à fait l'intention, mais il n'avait jamais pris la peine de le démentir fermement, laissant courir la rumeur pendant plusieurs semaines avant de se présenter dans sa mairie du Havre, ce qui était beaucoup plus cohérent. Donc, est-ce qu'il a raison d'entretenir le suspense, de laisser planer l'ambiguïté ? Oui, parce que finalement, l'élection présidentielle est dans un an c'est pas beaucoup, un an c'est très long en temps politique, beaucoup de choses peuvent se produire d'ici là et l'histoire politique récente l'a montré. Donc finalement, si pouvait ne pas se fermer cette porte-là, d'être éventuellement peut-être candidat ou autre, bien d'autres choses, il se ménage cette sortie-là. Oui.
Et Bruno Cotterêts, il était discret jusque-là, hein. Il y avait eu quelques déclarations en mairie du Havre qui avaient fait un petit peu parler, mais là, il y a clairement un changement de braquet. Il veut qu'on parle de lui.
Oui, il veut très clairement qu'on parle de lui. La date de sortie de cet ouvrage écrit avec son vieux complice est tout sauf dû au hasard, bien évidemment. Nous sommes à un an de l'élection présidentielle et nous sommes à un moment donné, je crois, assez important du point de vue des dynamiques de l'opinion publique. On voit bien que l'exécutif a quand même beaucoup de mal aujourd'hui à donner le sentiment aux Français d'une gestion de crise absolument cohérente, qui sait où elle va, etc. Et c'est vrai qu'Édouard Philippe a laissé aux Français l'image de quelqu'un qui savait où il allait. Alors, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? En tout cas, un phénomène d'opinion s'était créé autour d'Édouard Philippe, particulièrement pendant le premier confinement, comme si Édouard Philippe avait su, dans ce grand moment de choc et d'incertitude, incarner à la fois le sens de l'État, une certaine, on va dire, une certaine attitude d'une personnalité qui dit les choses, qui sait où il va, etc. Et donc, effectivement, Édouard Philippe m'a semblé, moi, hier, notamment lors de son plusieurs moments d'interview, commencer à franchir, hein, commencer à marquer véritablement son pas, et je pense en particulier au moment où le journaliste Laurent Delahousse lui demande qu'en était-il de ce rôle qu'on lui aurait attribué dans la dernière discussion qu'il aurait eue avec Emmanuel Macron avant de quitter Matignon, une sorte d'animateur de la majorité, et la manière dont Édouard Philippe a botté en touche sur la réponse à cette question hier en disait très long déjà sur l'autonomie qu'il a pris par rapport à Emmanuel Macron et par rapport à ce rôle qu'Emmanuel Macron voulait lui voir, c'est-à-dire une sorte de quelqu'un qui allait mettre du liant et qui allait animer la majorité. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la majorité, il y avait beaucoup de soucis, hein, dans la coordination de la majorité. Et donc, j'ai trouvé un Édouard Philippe, effectivement, qui hier a clairement passé le message aux Français qu'il était dans les starting blocks si besoin était.
Oui, Pauline Thévenoud, vous avez commencé à en parler. Ce qui est notable, c'est qu'on entendait dans sa bouche avant, hein, en tout cas, beaucoup le mot « loyauté ». Là, on entend quand même surtout le mot liberté. Comment vous analysez ça ?
Absolument. Ce qui est notable, c'est que il marque sa différence, ce que disait Bruno Cotterêts sur son rapport à la majorité. Il y a eu un moment où on lui demande s'il se sent solidaire de l'action du gouvernement. Ce qu'il répond, c'est je ne la critique jamais. Et là, il fait cette précision, je ne suis pas membre de la majorité, au sens où je ne suis pas parlementaire. Ce que ça montre bien, c'est qu'Édouard Philippe, il veut marquer sa différence, il veut exister et en somme peser en propre et non pas comme un rouage du cercle macroniste. Et d'ailleurs, en coulisses, on le sait, il s'organise, il rencontre des élus de tous bords à tour de bras, il crée son micro-parti et il y a évidemment ce livre avec cette tournée promotionnelle. Donc on voit bien que c'est Édouard Philippe en propre qui veut peser pour lui-même.
Oui, Jérémy Marot, Édouard Philippe écrit, alors peut-être est-ce Gilles Boyer, on ne sait pas, ils écrivent en tout cas à quatre mains dans leur livre, que depuis quelque temps, le second mandat n'est plus tout à fait la norme. C'est un drôle de message, ça, quand même.
Oui, absolument. Bah, ils se battent sur l'histoire récente, bien évidemment, François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas réussi à se faire réélire. Je pense que ce qu'ils veulent aussi dire, c'est qu'un second mandat n'est pas la norme et que si Emmanuel Macron souhaite en briguer un, il ne pourra pas le faire tout seul. Et dans cette aventure solitaire qu'il avait guidée en 2016-2017, il lui faudra des alliés. Alors, il y avait le MoDem de François Bayrou. Il y aura peut-être aussi, qui sait, une sorte de force d'appoint qui pourrait venir du centre droit et qui pourrait être conduite par Édouard Philippe, par exemple. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est qui sous-tend ce message.
Bruno Cotterêts, j'ai parlé en introduction de la popularité d'Édouard Philippe. Il est le personnage politique français le plus populaire. Alors lui, il dit le moins impopulaire. Et on sait bien que c'est un phénomène à peu près normal pour quelqu'un qui n'est pas directement aux affaires, qui est un peu parti, qui s'est un peu éloigné. Il est vraiment loin devant les autres dans les études d'opinion ?
Oui, assez nettement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça, c'est sur l'ensemble des électorats. Il y a guère que dans l'électorat de la France insoumise, auprès des sympathisants de la France insoumise, que Édouard Philippe n'enregistre pas vraiment de popularité. Mais j'ai regardé, par exemple, la dernière enquête d'opinion de l'Institut BVA, où il demande aux personnes le souhait qu'elles ont qu'une personnalité politique exerce de l'influence dans l'avenir. C'est Édouard Philippe qui est en numéro 1 devant Nicolas Hulot, le chouchou des sondages, mais aussi devant Marine Le Pen, Bruno Le Maire, Xavier Bertrand, et puis retrouve une place importante de souhait de le voir exercer de l'influence chez les écologistes, chez les socialistes, où il est numéro 5, personnalité préférée, chez les marcheurs, où il est très largement en tête à 80%, même très nettement devant Bruno Le Maire ou Olivier Véran, et même chez les Républicains, où il est tout juste devant Nicolas Sarkozy, et il est numéro 1 en ce moment, préféré des sympathisants des Républicains. Donc on voit carton plein, d'une certaine manière, pour Édouard Philippe. Il n'y a guère que l'électorat de la France insoumise. Il marque même quelques points chez les électeurs, les sympathisants du Rassemblement national. Et donc là, c'est une ressource pour lui, un capital extrêmement précieux, parce que l'on sait que pour la présidentielle de 2022, s'il devait être candidat, et vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ça serait pour lui une ressource très importante de ne pas donner le sentiment qu'il est cornérisé avec simplement un fan club, mais beaucoup de difficultés à séduire d'autres électorats, ce qui est un peu le cas d'Emmanuel Macron aujourd'hui.
Est-ce que le fait d'être très populaire, ça se transforme forcément en présidentiabilité ?
Alors bien évidemment, il y a une différence entre la popularité et la présidentialité. Les deux sont quand même un peu corrélés hein, à un moment donné, mais c'est vrai que ce sont deux dimensions des attitudes politiques un peu différentes. La présidentialité, c'est donner le sentiment aux électeurs qu'on est taillé pour le job, qu'on peut enfiler le costume de président de la République. Il me semble que Édouard Philippe, pour le moment, dans l'opinion, dispose plutôt de ce capital. Mais vous savez, il y a une deuxième dimension de la présidentialité qui est la dimension plutôt horizontale. Être proche des gens, donner le sentiment qu'on est empathique, qu'on comprend les gens, ça, de ce point de vue-là, il lui resterait à montrer que son expérience de Premier ministre lui a permis d'être comme ça, empathique et en compréhension.
Oui, c'est une bonne question, ça, Pauline Théveniaud. Il a laissé quel souvenir dans l'esprit des gens, Édouard Philippe ? Parce qu'il a été quand même l'homme qui a le plus brusquement confiné la France. Hein. Il avait même, à un moment, il l'avait assumé à la télévision, il ne faut pas faire d'obsèques pour les gens qui sont morts de la Covid-19.
Oui, absolument. Il a eu des positions assez fermes. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant de voir, d'observer en ce moment en coulisses, c'est que certains macronistes, d'ailleurs, le rappellent, puisque là, évidemment, Édouard Philippe, il est plus aux manettes et il est plus dans la gestion de crise. Donc, c'est aussi un peu plus facile d'être populaire. Dans cette situation-là. Et ce qui est rigolo, c'est de voir que dans les petites banderilles que certains macronistes lui plantent en ce moment, parce que certains s'agacent quand même un petit peu de voir cette tournée promotionnelle, c'est aussi de rappeler qu'il a pu avoir des positions, et ça, je les cite eux, rigides, en rappelant par exemple le 80 km/h, la taxe carbone ou l'âge pivot sur la réforme des retraites, manière de dire que Édouard Philippe, voilà, c'est aussi ça, et ça a aussi pu déplaire quand il était en exercice.
Jérémy Marot, dans la Macronie, plus généralement, on peut peut-être développer ce point-là, on pense quoi du personnage ? Est-ce qu'il y a une forme de méfiance actuellement ?
Je pense qu'il y a une incompréhension qui a grandi là, depuis le départ le 3 juillet d'Édouard Philippe de Matignon. Il y a une incompréhension parce que d'un côté, les côtés philippistes, on va dire, on s'est senti pas assez traité, pas assez soigné par la Macronie, qui s'est méfiée dans les derniers mois du mandat d'Édouard Philippe à Matignon, qui s'est méfiée de la popularité grandissante et complètement décorrélée de celle d'Emmanuel Macron. On a vu tout d'un coup Édouard Philippe prendre de l'ampleur et devenir beaucoup plus populaire qu'Emmanuel Macron.
Oui, parce qu'il faut le préciser, cette popularité ne date pas de son départ. Il était déjà bien plus populaire que le président, alors qu'il était aux affaires.
Exactement. Une popularité, alors je pense je parle sous le contrôle de Bruno Cotrès, mais chez les électeurs de droite, au moment de la réforme de retraite, où il a affiché des positions à la fois assez rigide, mais en même temps, il y a une jonction avec toute une partie de l'électorat de droite qui a entendu Édouard Philippe valoriser le travail, dire qu'il faudra travailler plus. Et ça, c'est des marqueurs assez importants, je pense, dans l'électorat de droite. Et puis, pendant la période du confinement, puis surtout du déconfinement, on a vu un Édouard Philippe dire, lors des conférences de presse, admettre à certains moments qu'il ne savait pas certaines choses, très pédagogue, avec une certaine image de rigueur. Ce sont des traits d'image qui sont finalement cristallisés autour de sa personne. Et donc, on a vu cette popularité grandissante chez Édouard Philippe, en même à mesure que celle d'Emmanuel Macron stagnait, voire régressait. Et ça a créé des crispations, des moments de tension dans les cercles macronistes, où on s'est dit... Que veut ce Premier ministre qui, tout d'un coup, prend de l'ampleur? Est-ce que ça a présidé au fait qu'il parte? Je pense que ça en a fait partie. Et depuis lors, il y a cette incompréhension qui a grandi. Bruno Cotterêts en a parlé tout à l'heure, cette incompréhension autour de ce poste, de ce rôle qu'on lui a proposé d'animateur de la majorité, qui est en soi assez lunaire, puisque le chef de la majorité, c'est le Premier ministre, donc c'est Jean Castex, ça ne peut pas être Édouard Philippe. Il y a aussi tout ce qui a traîné autour de la décoration d'Édouard Philippe. Il doit être remercié c'est traditionnel, hein, décoré d'une Légion d'honneur par Emmanuel Macron.
Oui, grand officier pour tous les premiers ministres qui restent plus de 2 ans à Matignon, c'est normal.
Exactement, et ça fait 2 fois que c'est repoussé, que ça n'a toujours pas lieu, officiellement c'est les raisons sanitaires, mais on attend toujours. Donc on s'est du côté des philippistes, on s'est senti un peu maltraité, on va dire, ces derniers mois, et du côté des macronistes, on observe du coin de l'œil ce Premier ministre qui revendique sa liberté, l'affirme, a du mal à dire pleinement « je suis en soutien du gouvernement » et nourrir une sorte d'exercice de funambulisme qui paraît... peut-être un peu étrange et attire la suspicion.
Ouais, Bruno Cotterêts, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Jérémy Marot, parce qu'il vous a un petit peu interpellé. C'est quoi le positionnement politique d'Édouard Philippe dans l'opinion? Il est identifié comment? Il est de droite modérée? Il est macroniste? Il est centriste? Comment il est marqué?
Il est identifié de centre-droit par l'opinion. De ce point de vue-là, il n'y a aucun doute. Et Édouard Philippe n'a jamais véritablement entretenu le doute. Rappelons-nous la passation de pouvoir entre Édouard Philippe, nouveau Premier ministre, et Bernard Cazeneuve, avec Édouard Philippe qui dit « je suis un homme de droite, vous êtes un homme de gauche », donc réaffirmant son identité de droite. Si Édouard Philippe avait aussi pris ses distances avec les Républicains, les rapports qu'il a avec le mouvement politique dont il est originaire sont des relations qui sont cordiales. Les Républicains n'ont pas opposé de candidat LR à Édouard Philippe lors de l'élection municipale au Havre, ce qui était déjà un message assez important qui lui faisait passer. Et Édouard Philippe est dans un positionnement, on va dire, néo-jupéiste, fondamentalement, c'est-à-dire d'un centre-droit qui est quand même au plan économique qui est plutôt de droite. On vient de le rappeler, effectivement, ses positions au moment de la réforme des retraites, hein, sur l'âge pivot, la valorisation par Édouard Philippe du sens du travail, qui sont effectivement des valeurs qui plaisent à l'électorat de droite. Et dans le positionnement qu'a aujourd'hui Édouard Philippe, c'est vrai que ça explique sans doute une partie de sa popularité. On a une opinion aujourd'hui qui est quand même à la fois très en demande, très en attente sur les grandes fonctions régaliennes de l'État, puisque l'une des grandes conclusions que les Français vont tirer sans aucun doute de la crise épidémique, c'est que les institutions publiques, les institutions de l'État ont en partie joué leur rôle, mais qu'elles ont quand même pas mal joué leur rôle. Et donc le régalien, l'ordre, la loi, la sécurité, la gestion rigoureuse, ce sont des choses qui gravitent, je dirais, autour de ce que Édouard Philippe peut incarner. Mais il a aussi ce positionnement néo-jupéiste qui peut plaire à des électeurs, même des électeurs de centre-gauche, qui disent, mais au fond, si ça doit être un homme de droite qui doit être élu, un homme de droite qui est plutôt jupéiste, c'est plus proche de ce que la gauche attend qu'une personnalité à la Nicolas Sarkozy, par exemple, qui était clairement une personnalité clairement identifiée à droite.
Oui, Pauline Thévenot, qu'est-ce qu'on en pense à droite? Qu'en pensent les intéressés? Il est vu, et vous allez probablement sortir de la dualité que je vais vous proposer, il est vu comme un traître ou comme un recours?
Eh bien, justement, un peu les deux. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'Édouard Philippe, il suscite les mêmes interrogations et finalement le même flou à droite qu'en Macronie. Certains, effectivement, le voient comme un recours et disent très très clairement qu'ils auraient envie qu'ils puissent à nouveau faire quelque chose avec eux, un grand rassemblement de la droite avec des figures comme Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Il y a ceux qui rappellent sans cesse qu'effectivement il a trahi en 2017 en rejoignant Emmanuel Macron, qui à ce moment-là a fait exploser le paysage politique formé autour des partis traditionnels. Et puis il y a ceux qui le regardent un peu en chien de faïence, qui s'inquiètent en disant mais est-ce que finalement il ne vient pas faire un peu le rabatteur pour Emmanuel Macron? Souvenez-vous de cette formule qu'avait eue Édouard Philippe quand il était à Matignon, c'était de dire la poutre travaille encore. Sous-entendu, moi, Premier ministre issu des rangs de la droite et qui entretient des réseaux avec des élus de droite, je vais pouvoir élargir la majorité de ce côté-là. Alors à droite, certains se disent, bah, s'il le faisait alors, est-ce que là, tout son objectif n'est pas de continuer à le faire pour un candidat Macron?
Oui, Jérémy Marot, on imagine que les Valérie Pécresse, que les Xavier Bertrand, qui s'est empressé de parler avant Édouard Philippe, ne sont pas tout à fait ravis de ce retour médiatique.
Quand on demande dans les entourages des uns et des autres ce qu'ils pensent du retour d'Édouard Philippe, ils disent qu'ils ne chassent pas sur les mêmes terres. Sous-entendu, Édouard Philippe, lui, est identifié au bilan d'Emmanuel Macron. Et donc tout l'angle d'attaque, ça va être de dire Édouard Philippe n'est pas quelqu'un venant de centre-droit et clairement identifié comme quelqu'un de différent d'Emmanuel Macron, mais c'est Emmanuel Macron en une sorte d'avatar. Alors certains diront une version améliorée, une version dégradée en fonction des goûts et des couleurs de chacun, mais voilà, c'est l'idée de s'en distinguer. Néanmoins, il me semble, et là encore je parle sous le contrôle de Bruno Quatrez, qu'ils incarnent vraiment le même positionnement de centre-droit et qu'à ce titre-là, ils sont en concurrence frontale sur cet espace politique. Là.
Bruno Quatrez, Édouard Philippe, question simple en fait, mais je crois, enfin, est-ce qu'il est testé dans les sondages?
Il est sans aucun doute testé. Je n'imagine pas que les sondeurs n'aient pas déjà testé des scénarios. Est-ce qu'Édouard Philippe était candidat à la place d'Emmanuel Macron? Alors, vous savez qu'il y a une partie des sondages qui ne sont pas publiés lorsqu'ils sont commandités par des formations politiques ou par des personnalités politiques. Je n'ai aucune indication disant qu'Édouard Philippe commande des sondages, mais si il devait continuer à avancer ses pions, il est évident que les sondeurs vont tester des scénarios avec Édouard Philippe remplaçant Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est là où les relations entre les deux deviendront effectivement très, 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 très compliquées. Parce que si on voit simultanément un Emmanuel Macron dans les mois qui arrivent, qui serait fragile et qui n'apparaîtrait plus au fond aux yeux des électeurs du centre-droit comme la garantie absolue qu'il bat Marine Le Pen au deuxième tour. Et ça, je pense qu'il y a là une véritable point central pour la dynamique de l'opinion et la dynamique de la préparation à la présidentielle de 2022. On a eu une série de sondages au cours des semaines passées qui donnait une Marine Le Pen au deuxième tour très haut, 47-48%, voire battant d'un cheveu d'autres candidats. Une simulation a été faite avec Anne Hidalgo qui donnait 51% à Marine Le Pen. Donc si c'était le cas vis-à-vis d'Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron n'apparaisse plus comme celui qui garantit aux électeurs de centre-droit la victoire face à Marine Le Pen, on aurait sans aucun doute des dynamiques d'évolution qui se déporteraient en faveur soit de Xavier Bertrand, soit d'Édouard Philippe, en fonction des avancées, des stratégies de candidature de chacun.
Ouais, ça veut dire qu'il va être forcément testé, et publiquement cette fois-ci, après cette énorme séquence de promotion.
Oui, sans aucun doute, c'est évidemment quelque chose à quoi on peut tout à fait s'attendre dans les semaines qui arrivent.
Pauline Thévenot, je reviens sur les relations entre le président de la République et Édouard Philippe. Elles sont de quel type? Quelles relations ils entretiennent? Et puis d'abord, c'est assez simple en fait comme question, au mois de juillet, qui a quitté qui?
rapport au mois de juillet, c'est clairement Emmanuel Macron qui a quitté Édouard Philippe. En choisissant de le remplacer par Jean Castex, après avoir d'une certaine façon l'avoir laissé un petit peu lanterner, ce qui est un souvenir d'ailleurs un peu amer pour les proches d'Édouard Philippe. D'ailleurs, il y a une réponse qu'on fait dans l'entourage d'Édouard Philippe ces temps-ci, quand on perçoit les flèches un peu, qu'on voit les macronistes qui trouvent qu'il en fait peut-être un petit peu trop. Les amis d'Édouard Philippe, ce qu'ils répondent, c'est attention, il est libre, il n'a pas conquis cette liberté, mais on lui a rendu aussi, sous-entendu, Emmanuel Macron s'est séparé d'Édouard Philippe.
Jérémy Marot, ils ont dîné ensemble, Édouard Philippe et Emmanuel Macron, au début du mois de mars. On ne sait évidemment pas ce qui s'est dit, mais le simple fait qu'on fasse savoir que ce dîner a eu lieu, ça envoie quel message ?
Ça envoie le message, je pense, de dire qu'il n'y a pas de brouille entre les deux. Officiellement, et d'ailleurs il est possible qu'il n'y en ait pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre ouverte, qu'il n'y a pas de fracture ouverte entre les deux camps. Il y a, de ce que je ressens, de ce qu'on ressent, une forme d'incompréhension qui a grandi, peut-être de méfiance, un sentiment de méfiance réciproque, mais il n'y a pas de guerre ouverte. Je pense que l'idée de faire savoir qu'ils se sont vus est précisément d'envoyer ce message-là. Après, il y a une constante chez Édouard Philippe, et tous ses proches le disent, et je pense que c'est plutôt assez vrai, savoir qu'il ne fait pas fuiter le contenu de ses discussions avec le président.
Oui, c'est une règle intangible qu'ils se sont fixée au début de leur collaboration, et apparemment, ça continue.
Visiblement. Alors, dans le livre, que je n'ai pas lu comme énormément de monde encore, puisqu'il n'a pas été envoyé dans toutes les rédactions pour l'instant, et il ne sera publié que mercredi, apparemment, ils ne font pas parler Emmanuel Macron dedans, donc on n'apprendra rien sur le contenu de leurs échanges. Et durant les 3 ans à Matignon, ça a été le cas, c'est-à-dire qu'ils fonctionnaient en quatuor d'ailleurs, puisque les dîners d'Emmanuel Macron ou les déjeuners d'Emmanuel Macron avec Édouard Philippe se faisaient avec le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler d'un côté, Benoît Ribadeau-Dumas, le directeur cabinet d'Édouard Philippe à Matignon de l'autre, et rien ne fuit être de ce carré-là. Voilà.
Bruno Cotterêts, l'opinion, c'est votre spécialité, et puis ça, sur les questions de présidentialité, ça relève souvent du temps long. Alors, on a bien compris que Édouard Philippe se mettait en réserve au cas où le président de la République soit en difficulté en 2022. Mais est-ce que finalement, quelque part, il ne se positionne pas un petit peu pour plus tard, pour 2027, par exemple ?
Oui, on a beaucoup dit, lorsque Édouard Philippe a commencé à envoyer des signaux, que le Havre lui plaisait beaucoup, mais qu'il ne s'interdisait pas de voir plus grand. On a beaucoup prêté à Édouard Philippe l'idée, effectivement, d'une sorte de projet de plus long terme, en disant 2027, c'est lui le successeur d'Emmanuel Macron, après un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Je pense que du côté de la Macronie, on devait beaucoup cogiter, en tout cas envisager ce scénario. Alors la grande difficulté, c'est qu'en politique, le temps long, c'est une denrée qui doit se gérer avec beaucoup de prudence. Si Édouard Philippe reste au fond, en 2022, il n'est pas candidat, maire du Havre, très bien, mais il faudra qu'il continue d'être intellectuellement un animateur, c'est-à-dire quelqu'un qui envoie des signaux aux électeurs français sur des idées, sur des propositions. Est-ce qu'il va se contenter de la mairie du Havre ? Est-ce qu'il aura d'autres ambitions à ce moment-là, dans les élections, d'autres types d'élections ? Donc c'est vrai que le temps, tenir sur la durée jusqu'à 2027 est un vrai pari, parce qu'il dispose aujourd'hui d'une popularité qui est évidemment liée à son passage à Matignon, et notamment la dernière ligne droite, la gestion de la crise Covid à ses débuts. Dans 4 ans, 5 ans, tout le monde sera passé à autre chose. Donc il faudra à ce moment-là, pour un Édouard Philippe, maintenir ce capital dans l'opinion, ce qui est tout sauf simple, parce que si en 2022, il y avait quelque chose d'important, qu'Emmanuel Macron ne soit pas réélu, par exemple, les Français découvriraient à ce moment-là un nouveau casting, de nouvelles personnalités, et se maintenir pour des personnalités qui ont occupé les premiers rangs n'est jamais simple dans ce type de contexte.
Merci Bruno Cotrès, merci également à nos autres interlocuteurs, Pauline Thévenot et Jérémy Marot. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Florence Ponce, Charles Barré et à la réalisation aujourd'hui Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.
Appel sur l'actualité. Prenez la parole.